Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 13. Le défi socialiste. Troisième partie. En 1912, l'IWW s'impliqua dans une série d'événements spectaculaires à Lawrence, dans le Massachusetts, où l'American Woolen Company possédait 4 usines. La main-d'œuvre y était essentiellement composée d'immigrants, portugais, québécois, anglais, irlandais, russes, italiens, syriens, lituaniens, allemands, polonais et belges, qui vivaient entassés dans des baraquements en bois à la merci des incendies. Le salaire moyen était de 8,76 $ la semaine. Selon une doctoresse de Lawrence, Elizabeth Chaplay, un nombre considérable de garçons et de filles meurent dans les 2 à 3 ans qui suivent leur embauche. 36% des hommes et des femmes qui travaillent dans les usines n'atteignent pas l'âge de 25 ans. Au mois de janvier, en plein hiver, les ouvrières d'une des usines, des Polonaises, constatèrent que leur salaire, déjà insuffisant pour leur permettre de nourrir leur famille, avait été réduit. Elles arrêtèrent les métiers à tisser et quittèrent l'usine. Le lendemain, dans une usine voisine, 5000 autres travailleurs cessèrent également le travail, marchèrent sur une autre usine, en défoncèrent les portes, arrêtèrent les métiers à tisser et appelèrent tout le monde à quitter les postes de travail. Bientôt, 10 000 travailleurs étaient en grève. Un télégramme fut adressé à Joseph Ettore, italien de 26 ans et membre de l'IWW de New York, pour lui demander de se rendre à Lawrence afin d'aider à y organiser la grève. C'est ce qu'il fit. Un comité de 50 personnes représentant toutes les nationalités présentes fut mis sur pied pour prendre les principales décisions. Sur place, les Hooblies étaient moins d'un millier, mais les ouvriers non qualifiés, négligés par l'AFL, se tournèrent vers l'IW. L'IW organisa des défilés et des rassemblements. Les grévistes devaient prodiguer de quoi manger et se chauffer à quelques 50 000 personnes. La population globale de Lawrence était de 83 000 personnes. On organisa des distributions de soupe. L'argent se mit à affluer de tous les coins du pays, envoyé par des syndicats, des sections locales de l'IW, des groupes socialistes et même quelques particuliers. Le maire fit appel à la milice locale et le gouverneur dépêcha la garde nationale. Un défilé de grévistes fut attaqué par la police quelques semaines après le début de la grève. Une émeute éclata qui dura toute la journée. Le soir, une gréviste nommée Anna Lopizzo fut tuée. Des témoins affirmaient que l'assassin était un policier, mais les autorités décidèrent d'arrêter Joseph Ettore et un autre militant envoyé sur place par l'IW. Un poète nommé Arturo Giovannitti. Ni l'un ni l'autre n'était présent sur le lieu du drame ce soir-là, mais l'acte d'accusation stipulait que Joseph Ettore et Arturo Giovannitti avaient incité, armé et conseillé la dite personne, dont le nom ne nous est pas connu, de commettre le dit crime. Quand Ettore, président du comité de grève, fut emprisonné, on fit appel à Big Bill Haywood pour le remplacer. D'autres personnalités de l'IW, dont Elizabeth Guttler Flynn, se rendirent à Lawrence. 22 compagnies de la garde nationale et 2 régiments de cavalerie étaient désormais cantonnés dans la ville. La loi martiale fut décrétée et on interdit aux citoyens de discuter sur la voie publique. 36 grévistes furent arrêtés et nombre d'entre eux condamnés à 1 an d'emprisonnement. En février, les grévistes se mirent à organiser des gigantesques piquets de grève. 7 à 10 000 individus faisaient la chaîne et défilaient devant les usines, en portant des brassards où l'on pouvait lire « Refuser d'être un briseur de grève ». Mais la nourriture se faisait de plus en plus rare, et les enfants mouraient de faim. Le Call de New York, un journal socialiste, proposa, comme cela s'était déjà pratiqué en Europe, mais jamais aux États-Unis, que les enfants des grévistes fussent envoyés dans d'autres villes, chez des sympathisants qui veilleraient sur eux jusqu'à la fin de la grève. 3 jours après, le Call avait reçu 400 offres d'accueil. L'IW et le Parti socialiste organisèrent l'exode des enfants en recueillant les candidatures des familles d'accueil et en proposant un examen médical. Le 10 février, plus d'une centaine d'enfants, entre 4 et 14 ans, quittaient Lawrence pour New York, où ils furent accueillis à Grand Central Station par 5 000 socialistes italiens chantant la Marseillaise et l'Internationale. La semaine suivante, 100 autres enfants rejoignaient New York et 35 Barr, dans le Vermont. Dans ces conditions, il devint vite évident que les grévistes pourraient tenir encore longtemps. C'est pourquoi les autorités de Lawrence, prenant prétexte d'une loi sur la maltraitance des enfants, décrétèrent que ces derniers ne seraient plus autorisés à quitter la ville. En dépit de cette décision municipale, un groupe de 40 enfants se prépara à rejoindre Philadelphie le 24 février. La gare était bouclée par la police et la scène qui suivit fut racontée aux membres du Congrès par une déléguée du comité des femmes de Philadelphie. À l'heure du départ, les enfants alignés deux par deux et accompagnés de leurs parents étaient prêts à se mettre en route quand la police se rua sur nous et nous matraqua. Les coups pleuvaient de partout, sans épargner les enfants qui risquaient d'être piétinés vivants. Les mères et les enfants furent alors regroupés et hissés dans un camion de l'armée où, paralysés par la peur, ils furent à nouveau matraqués malgré leurs supplications. Une semaine plus tard, alors qu'elles revenaient d'une réunion, des femmes furent cernées et matraquées par la police. L'une d'elles, enceinte, dut être transportée à l'hôpital où elle perdit son enfant. Pourtant, les grévistes tinrent bon. L'American Woolen Company finit par jeter l'éponge. Elle accorda de 5 à 11% d'augmentation. Les grévistes insistèrent pour que les plus fortes augmentations profitent aux salaires les plus bas. 25 cents pour les heures supplémentaires. Et s'engagea à ne prendre aucune mesure de rétorsion contre les grévistes. Le 4 mars 1912, 10 000 grévistes se réunirent sous la présidence de Big Bill Haywood et votèrent la fin de la grève. Ettore et Giovannitti passèrent devant le tribunal. Une campagne de soutien fut organisée. On défila à New York et à Boston le 30 septembre. 15 000 ouvriers de Lawrence firent la grève pendant 24 heures en signe de soutien aux deux hommes. À cette occasion, 2000 grévistes parmi les militants furent licenciés, puis réintégrés après que l'IW eut menacé de déclencher une autre grève. Le jury innocenta Ettore et Giovannitti. Ce jour-là, 10 000 personnes célébrèrent l'événement dans les rues de Lawrence. l'IW prenait son slogan. Un seul grand syndicat. Très au sérieux. Les femmes, les étrangers, les travailleurs noirs, c'est-à-dire les travailleurs les moins qualifiés, étaient intégrés lorsqu'un syndicat IW se créait dans une mine ou une usine. Lorsque la confrérie des travailleurs du bois fut créée en Louisiane et qu'elle invita Big Bill Haywood à prendre la parole en 1912, peu après la victoire des grévistes à Lawrence, celui-ci fut surpris de constater l'absence de Noirs dans l'Assemblée. On lui répondit que la loi de l'État de Louisiane interdisait la mixité raciale dans les réunions. Haywood s'adressa alors en ces termes à la Convention. Travaillaient ensemble dans les usines. Parfois, un noir et un blanc se mettent ensemble pour abattre un même arbre. Aujourd'hui, vous vous êtes constitués en convention pour discuter des conditions dans lesquelles vous travaillez. Pourquoi ne pas admettre cette réalité et inviter les noirs à cette convention? Si cela va à l'encontre de la loi, c'est justement le moment de la briser. C'est ainsi que les noirs furent conviés à participer à la convention et que la confrérie décida de s'affilier à l'IW. Si les luttes permettaient parfois d'améliorer la situation, les ressources du pays restaient aux mains d'entreprises influentes, dont le seul mobile était le profit et dont la volonté s'imposait aux gouvernements américains. Pourtant, une idée faisait son chemin, toujours plus limpide et plus puissante. Une idée qu'on ne trouvait pas seulement dans les ouvrages de Marx, mais également chez certains artistes et écrivains de toutes les époques. L'idée selon laquelle les gens pourraient partager toutes les ressources de la terre afin d'améliorer la vie de tous et pas seulement de quelques-uns. Au tournant du siècle, les conflits sociaux se multiplièrent. 4000 grèves en 1904 pour 1000 par an en moyenne dans les années 1890. La loi et les forces armées volaient systématiquement au secours des riches. C'est également à cette époque que des centaines de milliers d'Américains se mirent à penser au socialisme. En 1904, 3 ans après la formation du Parti socialiste, Eugène Debs écrivait « Le syndicalisme pur et simple du passé ne répond plus aux exigences du présent. La volonté de chaque profession de rester indépendante et séparé des autres, aboutit à un enchevêtrement juridictionnel accru, générateur de dissensions, de querelles, et pour finir, de divorces. Les travailleurs syndiqués devraient comprendre que le mouvement ouvrier signifie plus, infiniment plus, qu'une misérable augmentation des salaires et la grève nécessaire à sa conservation. Même s'ils s'engagent à faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions de travail de ses membres, l'objectif essentiel du mouvement est de renverser le système capitaliste, fondé sur la propriété privée de l'outil du travail, d'abolir l'esclavage salarial et de libérer la classe ouvrière tout entière et même, en fait, toute l'humanité. Eugène Debs était devenu socialiste en prison, pendant la grève Pullman. Depuis, il était le porte-parole d'un parti dont il avait été 5 fois le candidat à la présidence des États-Unis. À une époque, le parti avait eu jusqu'à 100 000 membres et 1 200 élus dans 340 municipalités. Son principal organe de presse, l'Appeal to Reason, dans lequel Debs écrivait régulièrement, comptait quelques 500 000 abonnés. De nombreux autres journaux socialistes existaient à travers le pays, ce qui permet d'estimer à environ 1 million le nombre des lecteurs de la presse socialiste.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió.
Le socialisme s'était extrait des petits cercles d'immigrants habitant les grandes villes, des socialistes juifs ou allemands, ne parlant que leur propre langue, pour devenir un socialisme à l'américaine. À l'échelle des États, la formation socialiste la plus importante était celle de l'Oklahoma, qui comptait en 1914 12 000 adhérents effectifs, plus que dans l'État de New York, et une centaine d'élus locaux, dont 6 à la législature de l'État. Il y avait 55 hebdomadaires socialistes en Oklahoma, au Texas, en Louisiane, en Arkansas, et on y organisait des campements d'été qui attiraient des milliers de personnes. Dans Grassroots Socialism, James Green décrit ces radicaux du sud-ouest américain comme autant de pionniers endettés, de fermiers itinérants, de mineurs et de cheminots, de bûcherons durs à cuire venus des forêts de pins, de prédicateurs et d'instituteurs installés sur les prairies brûlées par le soleil, d'artisans et d'athées. Ce peuple anonyme, à l'origine du mouvement socialiste local le plus important de toute l'histoire des États-Unis.
Llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste.
Le mouvement socialiste s'était laborieusement édifié grâce au concours d'anciens populistes, de mineurs activistes et de cheminots placés sur liste noire. Tout ce monde était assisté par un groupe d'agitateurs et d'éducateurs professionnels et inspiré par les visites occasionnelles de figures nationales comme Eugène Debs et Mother Mary Jones. Ce noyau de militants s'étendit et finit par intégrer les contestataires locaux et par former un groupe plus large de militants qui sillonnaient la région en vendant des journaux, en constituant des groupes de lecture, en fondant des sections locales et en faisant des discours à tous les carrefours. À mesure que les socialistes prenaient de l'importance lors des élections, Debs obtint 900 000 voix en 1912, doublant son score de 1908, et devenaient plus soucieux d'augmenter leur pouvoir d'attraction, ils se firent également plus critiques au sujet des stratégies de sabotage et de violence de l'IWW. En 1913, Big Bill Haywood fut finalement exclu du comité directeur du Parti socialiste, sous prétexte qu'il prônait la violence. Les articles de Debs étaient pourtant bien plus incendiaires.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Les femmes jouaient un rôle actif au sein du mouvement socialiste, mais se trouvaient plus souvent à la base que dans les directions. Elles adressaient également, à l'occasion, de sévères critiques à l'encontre de la politique socialiste. Mais les questions féministes qui débordaient des cadres politiques et économiques pouvaient-elles trouver une solution dans un système socialiste ? Une fois le fondement économique de l'oppression sexuelle corrigé, l'égalité suivrait-elle automatiquement ? Se battre en faveur du vote des femmes ou pour toute autre cause qui ne soit pas celle du bouleversement révolutionnaire était-il parfaitement vain ? Le débat se fit plus vif à mesure que le mouvement féministe du début du XXe siècle prenait de l'ampleur, que les femmes s'exprimaient plus ouvertement, s'organisaient, protestaient, manifestaient, aussi bien en ce qui concernait le vote que l'égalité dans tous les domaines, y compris ceux des relations sexuelles et du mariage. Certaines femmes désiraient lier socialisme et féminisme. Krista Listman, par exemple, imagina pour les hommes et les femmes de nouvelles manières de vivre ensemble, tout en conservant leur indépendance et sans avoir recours au mariage traditionnel. Listman était socialiste, mais elle pensait néanmoins qu'une femme sait que tout dans l'esclavage des femmes ne découle pas du système de profit et que son émancipation complète ne sera pas garantie par le seul effondrement du capitalisme. Pendant les 15 premières années du XXe siècle, le nombre des femmes au travail s'accrut. Elles étaient également plus nombreuses à avoir une certaine expérience de la lutte ouvrière. Certaines femmes de la petite bourgeoisie, conscientes de l'oppression subie par les femmes et désireuses d'y remédier, se mirent à fréquenter les collèges et refusèrent de rester cantonnées dans le rôle de ménagère. Elles allaient à l'encontre de la culture de masse, véhiculée par les magazines, qui vantaient la femme compagne, bonne épouse et bonne ménagère. Certaines d'entre elles se marièrent et d'autres non, mais toutes étaient confrontées au problème des relations hommes-femmes, comme Margaret Sanger, par exemple, pionnière de l'information sur la contraception, qui sombra dans la dépression malgré un mariage en apparence heureux, mais en réalité étouffant. Pour mener sa propre carrière et se sentir un être à part entière, elle dut quitter mari et enfant. Dans son livre « Woman and the New Race », elle écrivait « Aucune femme qui ne possède ni ne maîtrise son propre corps ne peut prétendre être libre. Aucune femme n'est vraiment libre tant qu'elle ne peut choisir en conscience si elle deviendra ou ne deviendra pas mère. » C'était une question délicate. Kate Richards, O'Hare, croyait dans les vertus de la sphère domestique, mais pensait également que le socialisme améliorerait ce domaine. Elizabeth Gurley Flynn écrivait au contraire dans son autobiographie « Rebel Girl » « La vie domestique et l'idée d'avoir une grande famille ne m'attiraient absolument pas. Je voulais discuter, écrire, voyager, rencontrer des gens, voir du pays et militer pour l'IW. Je ne voyais aucune raison pour que moi, parce que femme, j'abandonne mon travail pour une famille. » Si de nombreuses femmes à cette époque étaient radicales, socialistes et anarchistes, plus nombreuses encore étaient celles qui militaient en faveur du droit de vote. Ce sont elles qui militèrent massivement pour le féminisme. Des figures féminines du syndicalisme se joignirent au mouvement pour le droit de vote, à l'instar de Rose Schneiderman, du syndicat des travailleurs de la confection. À New York, lors d'une assemblée du syndicat des tonneliers, elle répondit à un délégué qui prétendait qu'en gagnant le droit de vote, les femmes perdraient toute féminité. « Les blanchisseuses se tiennent debout des 13 ou 14 heures dans la vapeur brûlante et la chaleur étouffante, les mains plongées dans l'amidon bouillant. Ces femmes-là ne perdront certainement pas beaucoup plus de leur beauté et de leur charme en glissant un bulletin de vote dans l'urne une fois par an qu'elles n'en perdent assurément déjà en travaillant dans les fonderies et les blanchisseries toute l'année. »
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.